un don pour chacun. Et nous allons voir. La parole de Dieu enseigne en effet qu'il existe au moins un don pour chacun d'entre nous. C'est le thème de cet enseignement. Et puis, eh bien, écoutez, nous allons tout simplement commencer en ouvrant ensemble les Écritures avec deux versets qui, à mon sens, résument un peu tout ce que je souhaite partager avec vous pendant ces trois soirs. Et je vais vous en partager un peu la thématique dans quelques instants. Ces deux versets sont ceux-là. Le premier est extrait de l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est en fait une citation du livre des Psaumes. Et Paul écrit, et il a fait des dons aux hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Il a fait des dons aux hommes et nous en faisons tous partie. Dieu continue de faire des dons à chacun d'entre nous. Et cette parole est renforcée par une autre de l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, voilà un verset qu'on prendra le temps de bien méditer, disséquer dans les moments à venir. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et chacun peut dire que je mette au service des autres le don que j'ai reçu. Voilà une belle vérité à pas simplement savoir, mais à vivre et à mettre à l'œuvre pour le bénéfice de l'Église. Ce soir, je vais voir un peu combien de temps, je vais essayer d'être à la fois concis, mais aussi le plus clair possible, je l'espère. Donc, on va voir comment on va avancer. Mais je vais aborder deux thèmes. On n'est pas vraiment dans un format prédication, donc il va y avoir parfois des chapitres qui vont s'enchaîner. Le premier thème, nous allons parler, ça va être peut-être c'est à la fois une synthèse et puis on va le voir une ouverture peut-être sur des choses dont nous n'avons pas forcément conscience. On va parler de la triple vocation du croyant. Ce sera notre premier thème ce soir. Et puis ensuite, je parlerai de qu'est-ce qu'un don, savoir ce que c'est qu'un don d'après les Écritures. Demain soir, nous parlerons sur les deux premières catégories de dons, les dons spirituels, les dons de ministère, les dons de la parole. Et mercredi soir, on abordera une dernière catégorie qui est pour moi très importante. J'ai vraiment à cœur d'enseigner sur ça d'une manière très particulière. J'appelle ça les dons d'intendance et nous verrons ce qu'il s'agit exactement. C'est un format dont je ne maîtrise pas forcément l'alpha et l'oméga, dans le sens où on verra comment le Seigneur conduit, soit permet-il d'avoir un temps de prière, peut-être un temps d'appel, soit un temps de questions-réponses, peut-être durant les trois soirées, on verra comment les choses vont évoluer, mais je vais laisser cette marge au Saint-Esprit pour nous conduire dans tout ce qu'il a préparé. Ok, commençons. Donc voilà ce premier chapitre, la triple vocation du croyant. Et peut-être avant d'aller plus loin, d'exprimer déjà ce qu'est une vocation. Dieu nous adresse une vocation, nous allons même parler de trois vocations. Et la vocation, c'est l'acte par lequel Dieu destine tout homme, toute femme, chacun d'entre nous, à un rôle dans lequel nous rentrons par la foi. Dieu a préparé des choses pour nous. Et pas simplement des choses vagues. Chose, c'est quoi une chose? Non, il a préparé pour nous une vocation, quelque chose de bien défini, de bien clair, de bien précis. Et ce n'est pas réservé à quelques-uns que l'on pourrait appeler missionnaires, pasteurs ou autres. C'est réservé à chacun d'entre nous. Nous allons voir donc qu'il existe une triple vocation du croyant qui ne dépend ni d'un appel, ni d'un don particulier, mais il y a notre élection en Jésus-Christ. Nous sommes élus, nous sommes choisis, non pas à cause de nos mérites, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de l'amour infini de notre Dieu. Et nous avons été élus même avant la fondation de ce monde. Et il a plu au Seigneur ensuite de nous appeler à travers l'Évangile et de nous amener à Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et le don du salut. Et cette élection fait de nous des fils et des filles. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous fils et filles du royaume de Dieu en Jésus-Christ. C'est notre élection. Et nous le verrons tout à l'heure, parce que nous sommes fils et filles du royaume de Dieu, parce que nous sommes ses élus, Eh bien, Dieu nous adresse aussi des vocations. Il va nous parler d'une manière particulière, et ce n'est pas lié à un ministère, c'est lié à ce que nous sommes. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, nous avons tous donc des vocations à remplir à cause de cela. Cette vocation, cette triple vocation est donc universelle. Elle concerne tout le peuple de Dieu et chacun d'entre nous. Vous êtes tous concernés. Elle est inconditionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de notre croissance dans la foi, ne dépend pas d'où nous en sommes. Cette triple vocation nous est donnée à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu. Bien sûr, il va falloir du temps pour comprendre ce que c'est et pour y avancer, c'est les progrès. Mais néanmoins, c'est donné à chacun d'entre nous. Et elle est aussi intemporelle, c'est-à-dire qu'elle va se manifester tout au long de notre vie. Et ce soir, je vais parler de cette triple vocation en disant que tout croyant né de nouveau, vous êtes né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous, le don du Saint-Esprit, eh bien tout croyant né de nouveau et rempli du Saint-Esprit est prêtre, prophète et prince, princesse si vous voulez, de l'Église et du royaume de Dieu. Prêtre, prophète, prince, c'est facile à se retenir, hein. Ça commence tous par la même lettre, par un P, prêtre, prophète et prince. Ça c'est la vocation, les vocations que le Seigneur nous adresse. Il nous appelle à rentrer pleinement dans cette triple dimension de service et de relation avec lui. Et nous allons voir que les dons que Dieu distribue à son peuple sont liés à cette vocation. C'est parce que nous sommes des prêtres, des prophètes et des princes que Dieu nous adresse des dons particuliers. Nous n'avons pas les mêmes dons, nous n'avons pas tous les dons, mais il est certain que chacun d'entre nous, et vous en particulier, avez reçu un don. Un don mettant l'emphase sur une volonté du Seigneur pour votre vie et pour le bien-être de son Église. Nous sommes donc des prêtres, des prophètes et des princes. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Parce que c'est pas forcément des termes qu'on a l'habitude d'utiliser, d'employer les uns à l'égard des autres. Nous sommes des prêtres. Ah, évidemment, il n'est pas question de tonsure, même si pour certains c'est naturel. Mais nous sommes des prêtres. Imagine que beaucoup d'entre vous avaient un arrière-plan catholique romain, et donc vous avez longtemps connu ce qu'était que la prêtrise. Et il ne s'agit pas de faire une comparaison entre la prêtrise catholique romaine et la prêtrise de l'Ancienne Alliance. Hein, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce qu'un prêtre selon les Écritures ? Hébreux 5.1 donne la meilleure définition. Hébreux 5.1. En effet, tout souverain sacrificateur, ou tout grand prêtre, ou tout prêtre, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Ça, c'est la définition de ce qu'est un prêtre. Et en effet, dans l'Ancienne Alliance, les prêtres avaient été choisis par Dieu d'une seule famille. La prêtrise était exclusivement réservée aux descendants, soyons même plus précis, d'Aaron. D'Aaron. Et ces prêtres se tenaient en quelque sorte entre les hommes et Dieu. Ils étaient dans le service de Dieu pour les hommes. Et je l'ai mis en tête, ils étaient la voix des hommes vers Dieu. Eux seuls pouvaient s'approcher de Dieu. Seuls les prêtres pouvaient rentrer dans le tabernacle, le temple, et seul le grand prêtre pouvait rentrer une fois dans le lieu très saint par an. Et ils étaient là pour être la voix des hommes vers Dieu. Ils plaidaient en faveur des hommes. Ils apportaient des sacrifices sanglants à Dieu pour apaiser la colère de Dieu à l'égard du péché. Ils servaient donc Dieu pour les hommes. Ça, c'était leur vocation dans l'Ancienne Alliance. Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, il y a encore des prêtres. Y a-t-il des prêtres au milieu de nous ? Nous sommes ces prêtres. Et notre mission en tant que prêtres, puisque nous sommes tous des prêtres, consiste à adorer. C'était la mission des sacrificateurs, hein. Ils adoraient Dieu, ils faisaient monter vers le Seigneur l'encens, les parfums, et consiste à prier Dieu en faveur des hommes. En cela, nous ressemblons quelque part à ce que les prêtres d'autrefois faisaient. Mais nous le faisons dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Et nous ne dépendons pas pour cela d'un pape, c'est évident. Mais nous dépendons d'un grand prêtre, qui s'appelle Jésus. Et il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus, homme. Et par lui seul, eh bien, nous sommes ses prêtres. Donc Dieu a choisi d'avoir pour lui un royaume de prêtres. C'était déjà présent dans l'Ancien Testament, mais on le retrouve dans ces beaux textes du Nouveau Testament. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, et par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des prêtres, pour Dieu, son Père, à lui, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 2:9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, Saint, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous pouvez déjà partir avec cette première pensée. Vous êtes un prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire encore d'être un prêtre? En reprenant les images de l'Ancien Testament, ça veut dire premièrement que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Autrefois, nous l'avons dit, dans le tabernacle ou dans le temple, seuls pouvaient approcher les prêtres. Tous les autres mouraient. Il y a eu un roi qui s'appelait Ozias qui osa rentrer dans le temple et il fut frappé immédiatement par la lèpre. Eh bien, nous n'avons pas à craindre un jugement, une lèpre ou autre chose, mais en Jésus, nous sommes des prêtres et nous pouvons nous approcher librement de notre Dieu. Hébreux 10:19-21, quel magnifique verset. Ainsi donc, frères, puisque nous avons moyen du sang de Jésus, nous l'oublions jamais, hein, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de son voile, c'est-à-dire sa chair. Voilà, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu pour le louer, l'adorer. Nous ne dépendons d'aucun homme pour ça. Et le pasteur n'est certainement pas le prêtre de l'Église. Il faut en être convaincu. Le pasteur n'est pas le médiateur des bénédictions. Il n'est pas le médiateur des sacrements. Nous sommes tous les prêtres. Librement, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et pas simplement entrer. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit encore autre chose. Elle nous dit que nous pouvons aussi nous approcher de Dieu. Tous les prêtres pouvaient entrer dans le sanctuaire, exactement dans le lieu saint. Mais un seul d'entre eux, une fois par an, le grand prêtre, au jour du Yom Kippour, de la fête des expiations, pouvait approcher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, approcher de Dieu? Ça veut dire rentrer dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche, et là où il répandait le sang de l'animal pour couvrir les péchés. Nous pouvons entrer, nous pouvons nous approcher. Nous pouvons nous approcher du trône de notre Dieu. Nous avons cette liberté parce que nous sommes des prêtres authentiques. Et Dieu nous accepte. Nous n'allons pas par nos efforts, nous n'allons pas par nos moyens, par notre justice, par nos œuvres, nos mérites, tout ce que vous voulez, mais nous y allons au moyen du sang de Jésus. C'est le chemin qui a été tracé pour nous. Et ainsi, nous accomplissons notre ministère de prêtre. Nous l'accomplissons dans l'Église. Lorsque nous nous réunissons pour célébrer le Seigneur, vous êtes des prêtres lors du culte. Chantant, louant le Seigneur, priant, adorant, nous sommes des prêtres. Nous sommes des prêtres lors des temps de prière, lorsque nous intercédons, lorsque nous prions notre Dieu, nous le supplions, nous faisons monter vers lui des requêtes, etc., etc. Mais nous le sommes aussi chez nous, en tout lieu, où nous prions, nous élevons nos voix, où le Saint-Esprit nous saisit. Nous ne dépendons pas d'un bâtiment, nous ne dépendons pas de tel horaire ou de rassemblement, mais en tout lieu, nous pouvons nous approcher du Seigneur parce que nous savons que ce n'est pas sur une montagne ou sur un lieu particulier que nous adorons notre Dieu, mais en esprit, en vérité. Gloire au Seigneur, nous sommes donc encore la voix des hommes vers Dieu. Nous sommes la voix de ceux qui ne peuvent pas encore parler, de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, nous sommes leur voix déjà vers Dieu, plaidant pour eux. On parle alors de sacerdoce universel. La prêtrise n'est pas réservée à quelques-uns, mais elle est pour tous en Jésus-Christ. C'est notre première vocation, elle est belle, n'est-ce pas? Et puis vient une deuxième vocation. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des prophètes. Ah! Alors si nous sommes des prophètes, vous allez peut-être tout de suite aller, je ne sais pas ce qui peut venir comme image devant vos yeux, un Jean-Baptiste avec ou un Élie avec leur vêtement en poil de chameau ou un Jérémie portant son joug, etc. Bon, il est clair que quand je parle de prophète ici, je ne suis pas en train de nous comparer à ces hommes, ces femmes de l'ancienne alliance, de l'ancien temps, depuis Moïse, Samuel jusqu'à Jean-Baptiste, si on le classe, si on le range parmi eux. Ce type de prophète n'existe plus. C'était les prophètes de l'ancien temps, de l'ancienne alliance. Mais il existe d'autres formes de prophètes. Parce que qu'est-ce qu'un prophète, finalement? C'est celui qui parle de la part du Seigneur. Alors, il était un temps où il parlait d'une certaine manière. Mais il est un temps, maintenant, où le peuple de Dieu, tout entier, est un peuple de prophètes. Comment sommes-nous des prophètes? Eh bien, par la promesse du Saint-Esprit qui a été répandue sur chacun d'entre nous. Joël chapitre 3, versets 1 à 2, ou à la fin du chapitre 2, suivant vos Bibles. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, dit le Seigneur. Ça veut dire que, une fois que nous sommes plongé dans le Saint-Esprit, baptisé de l'Esprit, mais il y a une relation particulière qui s'établit entre lui et chacun d'entre nous. Nous devenons sensibles aux directions de l'Esprit, sensibles à ce que j'appelle les communications de l'Esprit. Parce que l'Esprit nous parle. Des songes, des visions, mais aussi des pensées, des inspirations. Et le Saint-Esprit nous parle, et parfois même, comme il est écrit dans les Écritures, il nous pousse à parler. Et il nous pousse à parler. Il nous pousse à parler dans l'Église. Il nous pousse à parler aussi dans le monde. Là où l'Esprit de Dieu peut nous saisir. Et l'une des manières par lesquelles il nous pousse à parler, ce sont les dons spirituels. Et nous y viendrons. Et l'apôtre Paul a écrit ceci. Vous connaissez bien ce passage dans 1 Corinthiens 12. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun elle est donnée. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, et puis, etc., tous les dons spirituels. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il vaut. Comme quoi les mots sont précieux à chacun, à l'un, à l'autre. Nul n'est oublié. Nul n'est oublié. Et Paul va même pousser plus loin, puisqu'à la fin d'un Corinthiens 14, verset 31, il écrit même, vous pouvez tous prophétiser successivement. C'est pas que nous allons tous le faire, mais vous pouvez. Autrement dit, le Saint-Esprit peut se manifester à travers nos vies. Certainement, ayant été remplis du Saint-Esprit, nous pouvons prophétiser. Nous devenons de ces prophètes. On parle alors de prophétisme universel. Les prêtres sont donc la voix des hommes vers Dieu. Et les prophètes sont la voix de Dieu vers les hommes. Parce qu'il est évident que nous ne parlons pas pour nous-mêmes, quoique le Saint-Esprit peut nous révéler des choses pour nous-mêmes. Mais lorsqu'il nous pousse à parler, c'est pour parler à notre prochain, pour parler à notre frère, pour parler à notre sœur, dans une situation particulière. Et nous sommes ainsi la voix de Dieu vers les hommes. Donc on parle de prophétisme universel. Je répandrai sur toute chair. Chacun d'entre nous, rempli du Saint-Esprit, nous pouvons prophétiser pour la gloire du Seigneur et l'édification de notre prochain. Alors, l'office de prophète est donc complémentaire de celui de prêtre. Nous l'avons dit, le prophète est la voix de Dieu vers les hommes, et le prêtre, la voix des hommes vers Dieu. Avant d'aller au dernier point, j'ai envie de dire que si nous venons dans l'Église, mais en même temps, si nous vivons comme des prêtres, des adorateurs dans ce monde, nous devons être aussi pareillement disposés à être des prophètes. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous voulons aussi nous disposer, eh bien, à être utilisés par le Saint-Esprit. Alors évidemment, ça se fait pas deux minutes avant la réunion. Ah, au fait, Seigneur, si tu... Non, c'est un état de cœur qui se travaille. Vous savez que l'apôtre Paul dit « aspirez aux dons spirituels » et surtout à celui de prophétie. Donc nous travaillons cela, mais nous devons être convaincus que Dieu est capable de nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Je vais lever ma voix vers le Seigneur, c'est le culte. Oui, mais dans le culte, il y a la partie prêtrise, on monte des choses vers le Seigneur, et il y a la partie prophétique, où Dieu nous donne des choses pour son peuple. C'est dans ces deux sens, dans ces deux voies qu'on voudrait essayer de tous fonctionner pour l'avancement de son règne. La dernière vocation dont les Écritures nous parlent, c'est donc celle de prince. Jésus a été parfaitement prêtre, prophète, et il est plus que prince, lui. Il est le roi. C'est pour ça que je préfère dire que nous sommes des princes. Lui, il est le roi. Et nous, nous sommes des princes. Nous savons que Dieu ne nous a pas simplement sauvés, mais il a fait de nous des co-héritiers. Nous devenons des héritiers parce que nous sommes ses fils et ses filles. C'est important de se rappeler toujours cela. Oui, le salut, c'est pas simplement « Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné de mes péchés, parce que tu me sauves, mais tu fais de moi un fils, une fille, un héritier. » Eh bien, écoutez, quand on est fils et fille du grand roi, on est donc prince, c'est normal, ou princesse. Et la place d'un prince ou d'une princesse, c'est à côté de son roi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble en Jésus-Christ sur le trône. C'est là la place des princes. Nous siégeons en Jésus, à côté de notre Père, à côté de notre Dieu, à côté de notre roi. Quel merveilleux endroit. Et il nous faut bien toute la vie chrétienne, d'expérience en expérience, pour comprendre ce que ça veut dire que d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce repos de la foi, cette assurance, cette paix, cette confiance pour avancer, c'est ce que nous donne cette position. Oui, tout ça, ce sont les bénéfices, mais en même temps, quand on est prince, il y a des responsabilités. Et ces responsabilités, c'est que nous sommes cohéritiers, mais en même temps, cohéritier veut dire aussi, surtout dans la tradition juive, on devenait héritier au moment où on était adopté par le père, et chaque jeune homme, adolescent, était adopté par son père. C'est le sens aussi de la bar mitzvah aujourd'hui. C'est-à-dire que le père reconnaît en son fils, non plus un enfant, mais son fils. Héritier est capable de s'occuper des affaires de la maison. Rappelez-vous, à 12 ans, Jésus s'occupait des affaires de son père. Eh bien, c'est pareil pour nous, nous devons nous occuper des affaires de notre père. Nous sommes ses fils, ses filles. Dieu nous considère pas comme des bambins. Alors, il y a eu peut-être un temps pour en étant des petits-enfants. Paul le dit dans les Galates. Hein, autrefois, nous étions sous des tuteurs, d'administrateurs, et puis on a grandi. Et il faut qu'on rentre vraiment dans notre vocation d'héritier et de gestionnaire des affaires du royaume de Dieu. Nous sommes les administrateurs du royaume de Dieu. Et c'est là que nous retrouvons encore ce beau verset, comme des bons dispensateurs, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous avons tous reçu un don particulier pour servir les affaires de notre Père. On parle alors de ministère universel. Sacerdoce universel. Prophétisme universel, sacerdoce ou prêtrise, prophétisme universel ou ministère universel. Le mot ministère, c'est un mot que j'emploie, mais en même temps, j'ai envie de le crever ce mot, si on peut lui enlever tout son air, ou si on peut lui enlever toutes les représentations qu'on a, parce que d'abord, le mot ministère n'est pas biblique. Vous le trouvez pas dans les Écritures. Pourquoi? Parce que ministère, ministerium, c'est latin. Or, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le grec ne fait pas de différence entre ces deux mots. Dans nos Bibles, second, il le fait, la différence entre ministère et service. Après nous, il y a le ministère et le service. Sauf que en grec, il n'y a qu'un mot qui a donné diacre en français. Et c'est le mot, le verbe diakoneo, diakonia, diakonos, servir, serviteur, service. Donc nous sommes, quelle que soit notre fonction, nous sommes tous des serviteurs ou des servantes et des administrateurs du royaume de Dieu, avec le don qu'il nous a accordé. Alors, c'est pour ça que je dis, mon ministère, il faut bien le comprendre, mais nous sommes tous, il y a un service universel. Je crois que c'est le gouvernement qui a lancé aussi le service universel. Dans l'Ancien Testament, ces trois offices étaient réservés à quelques-uns en raison d'une élection particulière. Certains avaient été appelés à l'office prophétique, d'autres en raison de leur descendance, les prêtres descendants d'Aaron ou les rois descendants de David. Voilà. Mais aujourd'hui, en raison de notre élection en Jésus-Christ, eh bien, nous avons part à ces trois vocations. Nous sommes tous prêtres, prophètes et princes. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je crois profondément, et il faut du temps pour arriver à cela, mais c'est, je crois, un but que chaque responsable d'église, chaque pasteur ou chaque ministère doit essayer de suivre et dont nous devons tous ensemble nous armer. C'est que l'église ne sera pleinement mature et efficace dans sa vocation que lorsqu'elle sera capable de faire grandir les croyants du stade nouveau-né spirituel à celui d'officier du royaume de Dieu servant comme prêtre, prophète et prince. Lorsque nous remplirons vraiment ces trois vocations en ayant pleinement conscience de ce que ça veut dire, en étant ces chrétiens accomplis dans le projet de Dieu, eh bien l'Église rayonnera d'une manière particulière. Et c'est là qu'on se rend compte que le projet de Dieu est bien plus beau, bien plus grand, bien plus élevé que parfois la portion congrue à laquelle dans laquelle on l'enferme. Hein. Le Seigneur ne se satisfait pas de voir simplement les chrétiens se dire « bah j'ai ma carte de membre ou je m'assois sur la chaise de l'Église ». Non, non, c'est pas pour ça. Jésus nous a sauvés. C'est un projet vraiment, vraiment plus extraordinaire. Et il est tellement merveilleux à vivre. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a plein d'étoiles qui apparaissent sur cette diapositive qui ne sont pas sur le PowerPoint, mais je ne comprends pas bien. Enfin, je traite ça. Voilà ce petit diagramme pour essayer de réviser, de synthétiser tout ce qu'on a vu. Nous sommes élus, et parce que nous sommes élus, nous avons une vocation, c'est le titre, élection et vocation des croyants. Notre élection, nous sommes fils et filles de Dieu. D'accord ? Nos vocations, prêtres, avec les textes, Apocalypse 1, 6, 1 Pierre 2, 9, prophètes, 1 Corinthiens 14, 31, prince, Apocalypse 1, 6. Notre équipement, parce que pour remplir, c'est là, on va y rentrer, ça va être le cœur de notre thématique, mais je voulais, justement, avant de rentrer dans la thématique, vous montrer ces choses. Parce que pour remplir ces trois offices, pas par nos forces, c'est pas par nos talents, c'est pas par notre capacité, notre connaissance, même notre bonne volonté qu'on va pouvoir le faire. Alors, le Seigneur étant conscient que la vocation qu'il nous adresse est vraiment trop élevée pour nous, il va nous donner des ressources pour les accomplir. Prêtre rempli du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 6 aussi, Paul s'adresse d'une part, une fois, à l'Église, nous sommes le temple. Et puis ensuite, il s'adresse à chacun d'entre nous, nous sommes le temple. Et si vous me permettez même d'être un peu plus précis, le mot va plus loin, parce qu'il y a deux mots pour temple en grec. Il y a un mot qui signifie le temple avec toutes les cours. Vous savez, il y avait des cours tout autour, des animaux, tout ça, Jésus va se fâcher. Ça, c'est un mot. Et puis, il y a un autre mot, qui est, si vous voulez, on pourrait traduire par sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est quoi? C'est le lieu très saint. Eh bien, quand Paul dit « nous sommes le temple » et qu'il parle de l'Église, il parle du sanctuaire. L'Église est le lieu très saint et elle est une habitation de Dieu en esprit. Habitation, où est-ce que l'Esprit habitait? Il habitait dans le lieu très saint. Eh bien, nous sommes le lieu très saint. Et pareillement, quand il s'adresse à nous, quand il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, il dit, vous êtes le sanctuaire de l'Esprit. Et il ne dit pas, votre cœur est le sanctuaire de l'Esprit. Il dit, votre corps. Votre corps est le sanctuaire, le lieu très saint du Saint-Esprit. Quand on réfléchit à ça, ça veut dire que, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec mon corps? C'est le lieu très saint, etc., etc. Hein, ça peut nous amener très loin dans des méditations, c'est très... En tant que prophète, le Seigneur nous accorde des dons spirituels qu'il distribue. Des dons spirituels. Et puis en tant que prince, on le verra aussi, on parle de dons d'intendance, Romains 12, ou de don de gouvernement, ou don de la parole, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc on voit là, je vous parlerai plus rapidement, enfin dans les jours à venir, de trois catégories de dons, les dons spirituels, les dons d'intendance, et les dons de gouvernement, dons de la parole. Et c'est comme ça que le Seigneur nous équipe pour accomplir par son esprit notre triple vocation. Quelles sont nos missions? En tant que prêtres, nous sommes des adorateurs et nous sommes des hommes et des femmes de prière. En tant que prophètes, notre mission, Paul le dit clairement, nous édifions, nous consolons et nous encourageons. Encourager, c'est le verbe parakaleo, qui veut dire appeler à être à côté de quelqu'un, être son défenseur, son ami, son conseiller. Parakaleo, le nom, c'est le parakletos. Et le parakletos, c'est le consolateur. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et donc, quand nous encourageons parakaleo, nous faisons directement le ministère du Saint-Esprit, l'encourageur, le consolateur. Donc, nous sommes les ouvriers du Saint-Esprit lorsque nous prophétisons. C'est pour ça qu'il dit prophétiser. Parce qu'en prophétisant, on fait exactement ce que le Saint-Esprit veut faire. On encourage, on console, on édifie. Et puis, en tant que prince, eh bien là, c'est le service de l'Église. Et je rajoute, et du royaume. Parce que, j'y reviendrai, certains sont appelés à servir dans l'Église. Mais il y en a beaucoup qui sont appelés à servir le royaume de Dieu au-delà même de l'Église. Parce que le royaume de Dieu ne se limite pas à l'Église. L'Église en est la colonne vertébrale. Mais sa lumière se répand dans ce monde. Et parfois, certains, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens qui disent « Mais je me sens pas forcément appelé à servir dans l'Église. Oui, j'aide comme ça, mais j'ai autre chose sur mon cœur. » Et parfois, ils savent pas quoi en faire. C'est peut-être votre cas. Eh bien, Dieu nous accorde des dons pour le servir dans ce monde. Et nous reviendrons aussi sur cela. Voilà donc notre élection, nos vocations, notre équipement, nos missions. C'est un peu une synthèse du projet de Dieu pour notre vie. C'est pas évident, hein. Il faut bien toute une vie pour essayer de commencer à effleurer chacune de ces choses. Mais encore une fois, ce sont pas des diplômes qu'on passe. C'est pas au bout de 20 ans de vie chrétienne que vous allez devenir, je vais devenir un prince ou un prophète. Non. C'est notre nature même. C'est en nous. C'est en nous. C'est le don de Dieu. Nous sommes toutes ces choses. Même si c'est tout petit. Mais un bébé est un humain. Même lorsqu'il est dans le ventre de sa maman. C'est un humain. Et nous savons que l'œuvre se faisant, il deviendra un adulte. Eh bien, c'est pareil. Donc, voilà le beau projet du Seigneur pour nos vies. Ayant dit ceci, vous trouverez, si vous prenez les notes, un deuxième chapitre qui s'appelle « Notre puissance, c'est le Saint-Esprit » où je développe la pensée donc de ce qu'être rempli du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, parce que le premier don est le don le plus important, au-delà du salut, de la vie nouvelle, c'est le don du Saint-Esprit. Il n'est pas possible de parler de dons spirituels, d'autres dons, sans parler d'abord du don du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous vivons ces choses, c'est lui qui nous donne sa force, sa puissance, et donc, mais ce soir, je pense que dans nos églises, on prêche ces choses, donc je ne m'y arrête pas, mais vous pourrez retrouver les notes sur tout cela. Maintenant, je voudrais prendre un temps pour parler, rentrer un peu plus dans le sujet, et parler des dons, d'une manière un peu générale, comprendre ce que sont les dons. Qu'est-ce qu'un don? Alors, dans le sens biblique, je ne vais pas parler, même si, à l'origine, on verra, ça dérive aussi de la compréhension du don qu'on peut en avoir dans la société, dans le monde. Mais bibliquement, un don est une capacité surnaturelle accordée par Dieu à tout croyant en vue de remplir un service. Une capacité surnaturelle. Donc on fera la différence dans quelques instants entre don et compétence. Ou capacité personnelle. On va faire le point. Ces dons-là sont des faveurs divines. Sont des grâces. Ils ne sont pas des récompenses, Ils ne sont pas pour notre bénéfice personnel, mais ils ont une vocation utilitaire. Ils sont donnés pour être donnés, pour être partagés, pour être communiqués, comme Paul dit aux Romains, communiquer quelques dons. C'est-à-dire pour le bénéfice des autres, et pas le nôtre. Donc ils ne sont pas une récompense. Ça, je veux insister. Pas parce qu'on va devenir un meilleur chrétien qu'on va avoir. Ils sont donnés par grâce, et nous les vivons par la foi. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Et pas pour briller dans l'Église, évidemment. Alors, un don. Un don, c'est donc une capacité par laquelle nous pouvons servir Dieu. Et donc, avec le temps, il faut apprendre à servir Dieu avec le don qu'il nous accorde et non avec nos propres forces. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit, dit le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tout, non, pas moi toutefois, mais la grâce qui agit en moi. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, c'est la vocation prophétique, hein, annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, un service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Mais évidemment, pour servir d'après notre don et non d'après notre force, encore faut-il savoir ce qu'est notre don, et savoir comment le mettre en œuvre, et on va essayer de comprendre un peu plus à travers ces soirées-là. Tous les dons viennent de Dieu. Tout don parfait, toute grâce et excellence vient du Père des Lumières. C'est lui qui les a préparés, qui nous les distribue. Et il est souverain dans leur distribution. Paul l'écrit, un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et c'est tant mieux qu'on ait tous des dons différents, parce que sinon, on n'irait pas bien loin, hein. Et on verra, c'est lié encore à l'image du corps. J'y rentrerai plus en détail dans les temps à venir. Heureusement que le corps n'est pas tout cœur. Il y a un cœur et puis il y a plein d'autres organes, sinon ça fonctionnerait pas. La Bible montre la diversité des dons, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et cette diversité est voulue du Seigneur. Dieu est un Dieu de diversité. Dieu n'aime pas l'uniformité. La création en témoigne. La création nous interroge, mais pourquoi Seigneur avoir créé tant de variétés d'arbres, tant de variétés de fleurs, tant de variétés d'oiseaux, d'animaux, toutes sortes, comme ça. Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu de diversité. Eh bien, c'est pareil. Il y a une diversité de dons. Et c'est important parce que cette diversité de dons veut dire une richesse d'action de la part de l'Église. Et si vous êtes là déjà ce soir, je ne sais pas combien on est exactement, mais si nous avons tous donc reçu un don du Seigneur. Et si chacun met à l'œuvre le don qu'il a reçu du Seigneur, soit à l'intérieur de l'Église, soit dans ce monde, on réalise, et si on sert Dieu par nos forces, on réalise alors ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que le corps de Christ doit vraiment rentrer dans cette compréhension, cette mise en œuvre des dons. Capacité et compétences personnelles. Je le disais tout à l'heure, à ne pas confondre avec les dons. Il y a des dons qui viennent de Dieu. Ils nous sont donnés à un moment. Nous ne les avions pas, nous les avons. D'accord? Et puis il y a des capacités et des compétences personnelles. Les capacités naturelles. Mais les capacités naturelles, c'est qui nous sommes, ce que nous sommes. Il semble que certains soient mieux lotis que d'autres. Certains ont une personnalité charismatique, attrayante, enthousiaste, etc. D'autres, bon, c'est un peu plus compliqué dans leur personne. Mais on sait qu'on peut tous changer. Et surtout par la puissance du Saint-Esprit, en manifestant le fruit de l'Esprit. Hein, c'est ce que le Seigneur veut. Le fruit de l'esprit ne nous rend pas uniformes. Le fruit de l'esprit nous amène dans la dimension infinie de Dieu. Et c'est ça que nous voulons développer. Je ne sais pas quel est votre caractère naturel, quelles sont vos capacités naturelles, mais nous, ce que nous voulons avant tout, c'est regarder vers Christ et développer véritablement le caractère de Christ dans nos vies, les capacités de Christ. Le fruit de l'esprit. Les compétences naturelles ou acquises. Là encore, les compétences, c'est pas ce que nous sommes, mais ce que nous savons faire. Elles peuvent être manuelles, artistiques, sportives, intellectuelles. Certains en ont beaucoup, d'autres en ont peu, mais nous en avons tous. Certaines sont innées, et puis d'autres sont acquises. Les études, le terrain, etc. Voilà, c'est la vie, on développe des compétences les uns les autres. Alors, je veux vous dire que le Seigneur ne repousse pas nos capacités et compétences personnelles. Parce que je crois aussi que Dieu nous donne, nous accorde certaines compétences personnelles, naturelles, qui sont là et qu'on... Mais notre désir, c'est de les faire fructifier pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu a, même vis-à-vis des païens, lorsque le Seigneur leur donne quelques dons, quelques capacités, quelques compétences, c'est aussi pour le bien-être et le bonheur de tous les hommes. Dieu est un Dieu de générosité, de grâce. Il fait pleuvoir sur le bon et le méchant, hein. Ce qui est triste, évidemment, c'est quand des enfants de Dieu, convaincus, conscients que le Seigneur leur a donné, là, quelques capacités extraordinaires, vont les perdre dans ce monde. Ça, c'est vraiment, vraiment triste. En tout cas, voilà. Et si nous sommes capables, si nous savons faire des choses, nous avons appris à faire des choses, nous voulons les sanctifier, les mettre au service de Dieu pour l'avancement de son règne. Donc, voilà pour les capacités. Nous avons tous des capacités naturelles et nous avons tous des compétences naturelles ou des compétences acquises avec le temps, mais ça n'a rien à voir avec les dons. Ce qui est étonnant avec les dons, c'est que le Seigneur est capable de donner des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que nous étions. Il peut nous surprendre. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ne pas forcément rechercher que les choses qui sont selon notre affinité, parce que des fois, Dieu peut nous amener à vivre d'autres choses, qui viennent nous enrichir, mais qui vont aussi enrichir la communauté, enrichir nos prochains. En fait, il y a des dons pour tous et chacun. Et Dieu distribue des dons à son Église, dans les buts de l'édifier. Hein, ensemble, on va grandir, s'encourager, se fortifier, et aussi d'accomplir sa mission. D'accomplir sa mission vers le monde. 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, prophètes, docteurs? Ont-ils le don des miracles, le don des guérisons? Parlent-ils en langue, interprètent-ils? Il y a comme ça variété, diversité de dons, mais il y a un don pour vous. Et il y a des dons pour chacun d'entre nous et pour toute l'Église. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, je procède ainsi souvent quand j'enseigne. Je mets une première couche. Et puis après, je vais revenir dessus, puis je vais tirer davantage. Alors vous allez voir, je vais revenir sur des thèmes. Et là, ce soir, on met les premières couches, mais je reviendrai. Donc vous allez voir, je vais souvent parler du corps. Nous savons que les chrétiens sont membres du corps de Christ. Nous formons ensemble un corps universel, c'est ce qu'on appelle l'Église universelle, on ne la voit pas, elle est spirituelle, on dit aussi qu'elle est mystique, elle est intemporelle, traverse les générations, les nations, et nous sommes dans cette communion de foi, et nous savons que cette Église sera révélée au jour du retour de Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi membres de l'Église locale, et nos églises sont belles. Nos églises sont belles, Dieu aime, et le Seigneur Jésus aime son Église, c'est sa fiancée, et il nous aime particulièrement. Et pour nous, nous sommes le corps, et Christ est la tête, et eh bien, dans ce corps, nous avons tous une fonction, parce que nous avons tous une place. Il y a une place pour chacun d'entre nous dans le corps de l'Église locale. Parce que le Seigneur n'a pas prévu qu'un chrétien puisse vivre en dehors du corps, tout comme nous n'avons jamais vu un pied vivre par lui-même, ni une oreille. Mais l'œil ou l'oreille ou les dents ont besoin du reste du corps pour vivre. Eh bien, chaque croyant a une place. Vous avez une place dans l'assemblée. Et parce que vous avez une place, vous avez aussi une fonction. Il n'y a rien dans notre corps qui n'a pas trouvé fonction. S'il semblerait qu'il y ait une chose qui date, on ne sait plus trop en quoi ça sert, vous savez ce que c'est, quand on coupe après, l'appendice. Mais voilà. Mais sinon, celui-là, on peut s'en passer. Et qui dit fonction, place, fonction, et don. Parce que pour accomplir la fonction que Dieu nous donne à la place où il nous place, il nous donne des dons. Place, fonction, don. Place, fonction, don. Et place, c'est pas la chaise. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, vous êtes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, etc. etc. J'y reviendrai plus en détail. Donc il y a une dimension aussi corporelle dans l'exercice des dons. Voilà, c'est ensemble. Mes dons complètent ceux des autres. Et tant mieux si l'autre en a différents moi, parce que si on avait les mêmes dons, ça ne serait pas amusant. Voilà pour ces points. J'ai encore un peu de temps avant d'aller plus loin. Je ne vais pas commencer d'autres chapitres ce soir. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, Jésus distribue des dons à tous ses disciples. Il a fait des dons aux hommes, donc ça on l'a vu. Et il nous appelle à être les gestionnaires avisés et désintéressés du don qu'il nous communique, 1 Pierre 4:10, que nous avons déjà vu. Donc des gestionnaires aussi. Il y a plusieurs paraboles de Jésus sur les gestionnaires, les intendants. Il s'adresse à nous, hein. Seigneur nous parle sur ces choses, depuis la parabole des talents, la parabole de l'économe infidèle, la parabole des mines, etc., etc. Donc, le Seigneur nous parle sur cela, être de bons gestionnaires. Et donc, voilà un peu le résumé de ce point. À chaque croyant est accordé au moins un don en vue d'un service particulier. Puisque j'ai un peu de temps, juste parler sur cette notion. Il existe deux sortes de services dans l'Église. Il existe ce que j'appellerais le service général. Service général. Et tous nous sommes appelés à servir dans le service général. Le service général n'exige aucun appel, aucun don particulier, mais simplement, je vais dire, de la bonne volonté et la foi agissante par l'amour. C'est quoi le service général ? Prier, s'encourager, nos offrandes, sacrifice de libéralité, etc., etc. Tout ça, c'est le service général et nous pouvons tous le faire. D'ailleurs, tous les chrétiens doivent servir ainsi. Il n'y a pas de souci pour ça. Et témoigner, pardonnez-moi, n'oublions pas ça. Témoigner, ce n'est pas réservé à quelques-uns, ça fait partie du service général. Ça, nous pouvons tous le faire. Et puis, il y a ce que j'appellerais le service spécifique ou spécial. Service spécifique ou spécial. Et là, c'est justement cette place et cette fonction que nous occupons chacun. Au début, je parle d'une manière générale, et maintenant, le Seigneur s'adresse à chacun en particulier. Il nous dit, pour toi, j'ai préparé une place, une fonction et un don particulier. Tu vas me servir de cette manière. Tu vas me servir avec tel type de don. Et tu vas me servir pour cette raison, dans cette mission-là. Pas la même chose que ton frère, ta sœur. Mais c'est pour ça que je te qualifie. Et alors là, nous avons des services différents. Parce que nous avons chacun des dons particuliers de la part du Seigneur. Et Dieu ne nous oublie pas, mais il nous qualifie tous les uns les autres. Donc service général, service spécifique, service spécial, voilà, qui nous appartient. Comment est-ce qu'on découvre ce service spécial? Et du coup, ça nous amène aussi à savoir comment est-ce qu'on découvre nos dons. Je crois que le meilleur endroit pour découvrir son service, son service, et quand je dis son service, j'ai oublié de parler de ça, son appel. Parce que Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Dieu n'appelle pas que des missionnaires. Dieu n'appelle pas que des évangélistes ou des pasteurs. Il nous appelle tous. Paul dit, il écrit même au début de l'Épître aux Romains, serviteurs, nous sommes tous serviteurs, appelés à être apôtres. Mais nous avons un appel particulier. Vous avez un appel. Votre appel vous est personnel, il est différent du mien, j'ai un appel, vous avez un appel. Et parce que nous avons un appel, nous avons un don qui va avec cet appel. Parce que sinon le Seigneur dit, tu fais ça, mais il nous donne pas la force, on va dire comment on fait. Mais il nous appelle, il nous envoie, et en même temps il nous qualifie. Mais le meilleur moyen pour découvrir ce qu'est l'appel de Dieu pour sa vie, son don, sa fonction, c'est le service général. En commençant à servir le corps de Christ, à établir des relations avec le corps de Christ. C'est là, en, en s'attachant les uns aux autres, en devenant membres les uns des autres. C'est beau cette image, hein, on reviendra devenant membres les uns des autres. Prenant part à la vie de l'Église, que, au bout d'un moment, d'une manière ou d'une autre, et vous savez que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, à nous maintenant d'y prendre garde. Là, je déforme un petit peu. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous voulons y prendre garde. Eh bien, au bout d'un moment, le Seigneur est capable donc de venir nous parler et d'éveiller en nous quelque chose. Et l'homme va dire, Seigneur, ça fait quelque temps que je travaille peut-être comme, je sers dans l'Église comme moniteur, comme animateur parmi les enfants. Et puis maintenant, il y a vraiment quelque chose dans mon cœur pour les enfants. Il y a vraiment quelque chose pour enseigner les enfants. C'est quelque chose qui devient alors l'aspiration de votre vie. Et ça peut être pour d'autres choses. Quelqu'un qui dit, Seigneur, j'ai peut-être servi dans l'action sociale, l'entraide, la bienfaisance de l'Église. Je voulais au début donner un coup de main. Et puis voilà, Seigneur, maintenant, le désir d'assister les pauvres, de secourir peut-être les veuves, les orphelins, comme Jacques le dit, d'être là, Seigneur, c'est vraiment quelque chose qui est fort en moi. Ou peut-être même pour la prière. On prie tous, mais nous savons que certains, tu les utilises de manière très particulière dans la prière, dans le témoignage, etc., etc., on pourrait multiplier. Ça, c'est notre appel spécifique, notre appel personnel, ce que Dieu a réservé pour nous. Et pour cela, il va nous qualifier. Soit il va permettre que nous puissions grandir dans des compétences dont nous avons besoin et que nous pouvons acquérir dans ce monde. Aujourd'hui, servir parmi les enfants, notamment dans les colonies, exige d'avoir des diplômes. Donc on va se former, ça fait partie, sinon on peut rien faire. Mais Dieu va sanctifier aussi tout cela. Et il va nous donner peut-être des dons pour enseigner les enfants, et puis etc., etc. Et peut-être dans votre cœur, vous êtes en train de dire, mais moi aussi j'ai des aspirations, mais est-ce que ça peut servir à l'Église? Mais des fois ça sert hors de l'Église, dans le royaume de Dieu, je vous ai dit, dans ce monde, dans ce champ missionnaire qui est juste à la sortie de la porte, le champ de la mission commence. Et c'est peut-être sur votre lieu de travail, dans votre environnement amical, familial, j'en sais rien. Dieu vous a placé un endroit stratégique. Et c'est ainsi que nous concourons tous à faire avancer le royaume de Dieu. Alors si je dois voir rapidement quelques points pour découvrir son don, c'est vrai que d'abord, il faut développer une attitude de cœur favorable. Et ça demande quand même, je veux dire, un moment, une prise de conscience. Dois-je dire une maturité, me dire, Seigneur, je suis pas là simplement pour recevoir, pour être béni, qu'on prie pour moi, qu'on m'encourage, etc., etc. Mais il y a un moment, je vais aspirer. Je vais aspirer à autre chose. Aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer à servir le cœur de Christ. Et il y a quelque chose qui se passe dans la tête du croyant, hein, ou dans son cœur, et le mieux c'est, évidemment. Et je vais bien sûr vous montrer la voie par excellence, une voie par excellence. Et la voie par excellence, c'est celle de l'amour. De l'amour pour notre prochain, de l'amour pour Christ, de l'amour pour nos frères et sœurs. Cette attitude de cœur, Dieu connaît cette attitude de cœur. Développer une communion avec le Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le mot communication, koinonia en grec, est traduit soit dans certaines versions par communication ou communion. Et je dis souvent, qui veut des communications du Saint-Esprit, c'est-à-dire des directions de l'Esprit, doivent d'abord développer une communion. Sans communion, pas de communication. Sans relation, pas de révélation. Mais qui développe une communion aura des communications, qui développe une relation aura des révélations. C'est cette intimité avec le Saint-Esprit qui est indispensable. Développer une communion avec l'Église. C'est pour l'édification de l'Église que le Seigneur nous donne des dons. Et pour l'accomplissement de la mission qu'il a confiée à son Église. Donc, nous ne sommes pas là pour être un peu comme Ismaël qui était contre ses frères. On ne peut pas servir l'Église en étant contre ses frères, en étant seul contre tous. En disant, ah oui, mais moi, etc. Non, c'est en étant dans cette union. Et vous savez, un mot que j'aime beaucoup, c'est cette mutualisation. Une union et une mutualisation de nos dons et de nos capacités. On met en commun. quand on est en commun, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a une démultiplication. Voilà, parce que la faveur de Dieu, vous lirez les actes, ils étaient un même cœur, une même âme, un même sentiment, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il y a cette communion de Seigneur béni. Donc développer une communion avec l'Église. Développer aussi de bonnes motivations à l'égard du service, c'est-à-dire manifester une disponibilité au service, s'engager à servir sans préjugés, par exemple, voyez, persévérer dans la prière, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité, ça c'est le service général. Hein. Paul le mentionne comme ça, on peut tous faire ça. Voilà, je parlais, puisque ça y est maintenant, mais j'en ai déjà parlé, différence entre service général et service spécifique, je l'avais mis là. Il y a donc un lien certain entre le don et l'appel de Dieu pour un service spécifique. L'appel est toujours accompagné d'un ou plusieurs dons. Donc, voilà, dans ce terrain-là. Et ça, c'est quoi? C'est le terreau de l'Église. C'est votre vie chrétienne, votre vie spirituelle, votre vie de membre de cette assemblée. C'est ce terrain que Dieu va travailler. Et c'est dans ce terrain-là que Dieu sème. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là qu'il arrose. C'est là qu'il fait tomber sa fraîche rosée. Et c'est là que des appels sont lancés, que des vocations vont grandir. Se consacrer ensuite à la tâche, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être là en dilettante, mais de s'engager. Prends garde, dit à Archie, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. C'est évident que pas, si on a reçu un talent du Seigneur, on ne va pas l'enterrer. Pas le mettre de côté en disant bon, moi c'est quoi ce j'en ai juste un, oh, lui regarde, ah ce frère, regarde cette sœur, ah Seigneur, lui vraiment c'est important ce qu'il a, mais moi je le fais pas, ça se verra même pas. Mais le Seigneur le voit, parce que votre participation est importante. Votre participation, c'est vrai que dans le temple du Saint-Esprit que nous sommes, il peut y avoir parfois des pierres qui occupent une grande place. Mais des fois, il y a des petites pierres qui viennent. Et si elles ne sont pas là, ben, il y a des trous partout. Il a peut-être prévu que tu ailles là. Juste à cet endroit-là. Je veux dire, si tu es à cet endroit-là, ne t'occupe pas de la taille, des responsabilités. Si tu sers dans cet endroit que Dieu t'a confié, tu vas voir quelque chose de grand se manifester. Ne te soucie pas de ce que c'est, mais soucie-toi de mettre en valeur ce que le Seigneur t'a confié. Développer son don, le don vient de Dieu. Mais la connaissance, elle, s'acquiert par l'étude, mais l'expertise se développe par la pratique. Mettre en œuvre, pratiquer. Pratiquer, ça demande de l'audace, du courage, de la foi. C'est jamais simple. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va dire, je suis prétentieux, mettre en avant. Non, si quelqu'un désire une charge d'évêque, il désire une chose excellente, donc nous ne devons pas hésiter, nous ne serons pas tous évêques, bien sûr. Mais si vous aspirez à quelque chose, faites-le dans un esprit humble. Vous n'êtes pas là pour vous imposer. Vous êtes là pour vous proposer. Donc, osez vous proposer. Et je crois que l'Église en sera entièrement bénie. Je ne vais pas aller plus loin sur toutes ces choses. Ça servait un peu d'introduction ce soir à ce que nous allons voir plus en détail demain. Donc, pour rappeler, nous avons vu notre triple vocation. Il nous permet d'avoir ce panorama global du service de Dieu, de ce que Dieu a préparé. Non, Dieu ne veut pas simplement que nous soyons serviteurs. Non, que nous soyons des prêtres, des prophètes et des princes. Wow, ça c'est magnifique. Et puis nous avons parlé de ce que sont les dons, les compétences, les capacités, comment découvrir son don, etc., etc. Demain soir, enfin sur les deux soirs qui viennent, nous allons parler de trois catégories de dons. Alors je fais juste cette petite introduction rapide. Dans les Écritures, le Nouveau Testament, les apôtres utilisaient trois mots différents pour parler de trois catégories de dons différents. Ce qui veut dire que lorsque ils utilisaient un mot en particulier, les croyants savaient de quoi ils allaient parler. Malheureusement, en français, cette saveur a disparu par l'utilisation d'un mot générique, le mot « don ». Et le mot « don » traduit ces trois mots. Mais évidemment, on ne peut plus faire la différence. Donc, dans les deux soirs à venir, on va parler de ces catégories de dons. Demain, on va aborder les deux premières. Et mercredi soir, je vais prendre un temps particulier sur la dernière catégorie. Les dons spirituels, les dons de la parole, et mercredi, les dons d'intendance. Voilà ce que je voulais voir avec vous ce soir.